Et on en parle avec trois experts, le général François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Paris. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Le docteur Bernard Marc est également là, médecin légiste, chef de service de l'unité médico-judiciaire au Grand Hôpital de l'Est francilien. Et puis on est aussi avec Martial Villain, qui est un jeune retraité de la brigade cynophile de la gendarmerie, Mélanie Bertrand du service police-justice de BFM TV et David Dunal, envoyé spécial de BFM TV au Auvernais, où les recherches reprennent ce matin, David, et elles mobilisent au total une centaine de gendarmes.
La gendarmerie commence à être déployée ici. Les équipes cynophiles sont arrivées au Vernet avec en plus un fourgon banalisé. Et puis il y a des équipes qu'on a déjà vues hier qui sont de retour sur le terrain, notamment cette équipe qui dispose d'un appareil, de cette mallette que vous allez voir, qui est reliée à un appareil. Et en fait, il y a plusieurs spécialités qui travaillent ici. Des gendarmes qui sont équipés de drones, par exemple, qui étudient des points d'intérêt sur ce terrain, à différents capteurs aussi. Et puis il y a des capteurs qui permettent de modéliser cette scène en fait en trois dimensions pour permettre aux enquêteurs de disposer de cette scène de découverte des semaines voire des mois après les lieux, et puis pour aussi réaliser des mesures, réaliser des visualisations. Il y a aussi des capteurs qui permettent en fait de mesurer ce qui se passe dans le sol pour pouvoir voir éventuellement détecter peut-être des ossements ou des vêtements qui se trouveraient dans cette zone. Donc vous voyez, tout ça est en train d'être installé ici.
Et ce sont les meilleurs qui sont là, c'est ce que disait le patron des recherches hier.
C'est un travail extrêmement fin, extrêmement pointu, et c'est pour ça qu'en fait on fait venir les meilleurs. On fait venir ceux qui ont une expertise la plus haute au niveau international. Et c'est ce qu'on possède grâce à l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale de Pontoise.
Et c'est vrai, Mélanie, qu'il y a une cohorte de métiers qui sont représentés.
Oui, il y a les gendarmes classiques, les enquêteurs de la section de recherche de Marseille, David le disait, les brigades cynophiles avec des chiens très spécialisés sur la recherche de restes humains. Il y a aussi des experts de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie, dont des anthropologues. C'est vrai qu'on a peu l'habitude d'en parler dans les enquêtes criminelles, et pourtant leur rôle, il est très important parce qu'ils participent clairement aux fouilles. Ils sont sur le terrain depuis hier et eux peuvent très rapidement dire, par exemple, si des os sont retrouvés, s'ils s'agit d'eau d'animaux ou d'eau humains. Ils peuvent aussi étudier la végétation. Ils sont sur les lieux de la découverte du crâne et ils peuvent lire la terre. C'est ce que nous disait hier une source proche de l'enquête. Déterminer, inspecter la végétation.
Martial Villain, il y a plusieurs types de chiens dans ce genre de recherche. Quels sont ceux qui opèrent actuellement donc au Auvernais ?
Bonjour à tous. Ben, dans un premier temps, une fois les premières recherches effectuées avec des chiens traditionnels, on commençait à mettre en œuvre des chiens type RRH, de recherche de restes humains.
Des chiens. Alors, il va falloir, Martial, on a un petit problème de liaison avec vous. Il faut que vous vous rapprochiez un petit peu plus de votre micro pour qu'on vous entende bien. Le sens de ma question, c'est voilà, les chiens, ils ont déjà opéré quelques heures après la disparition d'Émile. Là, finalement, on leur donne, entre guillemets, quelle odeur à suivre ou à retrouver?
Ce sont des chiens, les RRH, c'est des chiens qui sont formés à une spécialité très spécifique et de haute technicité. À savoir que dans un premier temps, quand les premiers chiens interviennent, ils travaillent sur une odeur humaine, une odeur humaine qui est vivante. Alors que les chiens de RRH, à l'heure actuelle, travaillent sur une odeur bien spécifique.
RRH, ça veut dire quoi?
C'est les recherches de restes humains.
Ok.
Une fois que le décès opère, automatiquement, la température du corps tombe et on a une modification des odeurs. Les chiens de RRH ont travaillé sur des molécules bien spécifiques pour lesquelles ils sont entraînés à trois morts pour ce type de recherche.
François Daoust, il y a aussi ces trois drones qui opèrent depuis hier pour cartographier la zone où a été retrouvé le crâne du petit Émile, pour établir un jumeau numérique, c'est-à-dire c'est une maquette en 3D de la zone. Et quel est l'intérêt ?
Alors, l'intérêt, bon, il faut savoir que les drones ne sont qu'une partie. Il y a au sol ce que l'on appelle un laser 3D qui, lui, va prendre à partir du sol et va bien donner tous les détails qui sont sur le terrain. Donc ce jumeau numérique, c'est permettre aux enquêteurs, comme on juge, de pouvoir revenir sur la scène comme dans un jeu vidéo et pouvoir revisualiser tous les détails. Est-ce qu'il y a un tel vague? Est-ce qu'il y avait un cheminement possible? Est-ce qu'il y avait des ravinements qui ont été relevés? Et sur le sol, comme ça va jusqu'au millimètre près, on peut voir tous les détails, un morceau d'os qui a été relevé, un morceau de pierre, un morceau de caillou. Tous les éléments sont refaits en trois dimensions et c'est une modélisation.
Mais pardon, François Daoust, ces moyens considérables que l'on décrit aujourd'hui, ils n'avaient pas été déployés jusqu'à présent?
Alors, non, c'était totalement inutile. Faire 90 hectares lorsqu'on est dans la recherche de l'enfant, sans savoir où il est, c'est perdre du temps et des moyens, alors qu'il y avait d'autres urgences. Là, on a le départ d'une scène où il y a un indice, et un indice important qui est le crâne. À partir de là, il faut retrouver le point zéro, là où il y aurait le maximum d'ossements, ou en tout cas, là où le corps a été, sera peut-être, j'espère, trouvé le reste des ossements. Donc, c'est à ce moment-là, on a une zone délimitée dont on a besoin d'avoir tous les détails, et ces détails pour pouvoir travailler de manière indiciaire.
Docteur Bernard Marc, je rappelle que vous êtes médecin légiste. Quelle est la première chose que le légiste a fait ou va faire sur ce qui reste du crâne du petit garçon qui a été transporté à l'IRCGN à Pontoise?
Alors, l'IRCGN dispose d'une cellule médico-légale, anciennement dirigée par un de mes collègues, le docteur Chouliard. Et cette cellule médico-légale va se pencher sur les éléments aussi modernes. On dispose, par exemple, de l'imagerie scanner pour pouvoir modéliser le crâne, pour pouvoir regarder à l'intérieur s'il existe des lésions, des éléments qui seraient en faveur d'une compression de la boîte crânienne par le cerveau, c'est un cerveau qui gonfle par un œdème, par un hématome, va appuyer sur la calotte crânienne, donc on a ces éléments-là. Et puis il y a le revêtement extérieur, regardez si on est face à une lésion qui a été occasionnée après le décès sur un crâne qui aurait été remanié, ou bien s'il s'agit d'une petite fracture ou d'une lésion traumatique. Donc on va essayer d'éliminer tous les éléments traumatiques, de remodéliser en attendant d'autres pièces que les enquêteurs sont en train de rechercher au tamisage sur place. Oui.
Mais alors, docteur, il y a des questions évidemment qui sont un peu difficiles à poser, surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant. Si le corps a été déplacé par un animal, est-ce qu'on y verra des signes?
Alors, bien évidemment, alors c'est effectivement tout à fait douloureux, puisque là, il s'agit de la mort d'un petit enfant. S'il y a des déplacements, qu'ils soient occasionnés par un charriage d'une partie du corps dans un ruisseau ou dans un ravinement avec un écoulement d'eau, ou qu'il soit par un animal qui aurait tenu une partie, on risque de retrouver effectivement des éléments soit de frottement, soit des éléments de prise, de morsure qui seraient encore visibles sur le crâne. Il n'empêche très souvent dans les crânes que c'est plutôt le cou qui est pris plutôt que le crâne.
Question importante également, est-ce qu'il peut rester des traces ADN d'un tiers après peut-être autant de temps passé dans la nature?
Alors l'ADN a beaucoup évolué, beaucoup avancé, mais effectivement on peut avoir des traces. Il n'empêche qu'il a été exposé aux intempéries, à l'eau, sans doute à la neige, puisque plusieurs saisons se sont passées. Donc des éléments où l'ADN va être peu fiable. Et puis ce crâne, il a été transporté par une randonneuse, donc il y a aussi sans doute des impairs. Il aurait été plus utile pour les enquêteurs, en tout cas plus précieux, que les traces et indices soient totalement respectés, qu'on retrouve en place sans mouvement. Mais on fait avec ce que l'on peut.
Évidemment. D'un mot, et Mélanie, on dit que des entomologistes de la gendarmerie nationale vont arriver sur... C'est quoi cette spécialité?
Oui, ils pourraient arriver dans les prochains jours. Ce sont des spécialistes des insectes, et ça c'est très important. En cas de découverte de restes humains, ils pourront dire avec le type d'insecte qui se développe, pardon pour ces détails assez terribles, ça permettrait de dater la date de la mort du petit garçon. Donc ce sont des spécialistes très pointus qui pourraient arriver dans les prochains jours.
Merci à tous d'avoir été avec nous dans ce 7 minutes pour comprendre.